Bonjour à tous, merci de vous être levés tôt ce matin quand même, il est 11h un dimanche, hein, puis d'avoir c'est pas rien, et de venir nous écouter. Quoi. Donc on va essayer de rencontrer Arnaud Boutle, qui est auteur de BD, qui est prix Utopial 2016 pour son album Nefer, qui est un album qui a quand même beaucoup de qualité, dont on va parler tout à l'heure, énormément de qualité. Bon, Arnaud, on va faire quelque chose bon, dans les parcours comme ça, d'un peu, comment dire, un peu bateau pour présenter. Donc, tu es auteur de BD par choix, par force, par amour?
Par choix, ça c'est clair. La BD, ça a été une révélation de gosse de 10 ans, quoi. Donc, à partir de là, la seule chose que j'ai voulu faire, c'est de la bande dessinée. Il faut être un peu obstiné et persévérant, c'est clair. Mais oui, ça a toujours été une évidence.
Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui t'a conduit à vouloir faire de la BD? Des lectures, un univers ou l'envie de raconter des histoires? Mais parce que le dessin était vraiment une grosse passion ou...
Le dessin était une grosse passion. Il y a quelques chocs esthétiques qui peuvent arriver quand on est petit. Par exemple, la première fois qu'on voit au cinéma, on voit un dessin animé de Walt Disney et puis ça marque. Ben moi, ça a été mon cas, en fait. Ça a été le cas avec Pinocchio. Et ce qui est étrange, c'est que finalement, en tant qu'auteur, les premiers livres que j'ai produits, c'est une adaptation de Pinocchio. Donc, c'était une sorte de retour aux sources d'un souvenir, d'une esthétique, de quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et puis aussi d'une histoire qui était assez, assez incroyable pour un gamin de 5-6 ans. Effectivement, depuis, j'ai revu le film. Je ne l'ai pas revu, bien sûr, avec les mêmes yeux, ni avec le même émerveillement. C'est le problème quand on touche aux souvenirs. Hein, c'est qu'en général, on les réécrit. Et pour le coup, pour faire cette adaptation, eh bien, j'étais parti sur le roman de Collodi, plus que sur mes souvenirs réellement de Disney.
Donc tu as un parcours scolaire classique, et puis à un oui. moment, tu choisis, bon, tu continues à vouloir faire de la bande dessinée. Donc, quel cursus tu vas suivre pour vraiment aboutir à ce projet et puis à cette passion?
J'ai fait des études littéraires, et puis de ces études littéraires, je suis arrivé à l'université pour faire de l'art. Voilà. Et très vite, je me suis rendu compte que ça ne m'intéressait pas tellement ce qu'on m'apprenait là, parce que c'était vraiment une pratique artistique orientée vers l'art contemporain. Alors que moi, bah, l'illustration, la narration, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Donc, j'ai fini ce cursus et puis, en parallèle, j'ai continué à dessiner et à faire de la production pour moi. Et à la suite de ça, j'ai commencé à avoir des premiers contrats en tant que coloriste. J'ai bossé une dizaine d'années en tant que coloriste, en fait, pour beaucoup de maisons d'édition différentes. Et à un moment donné, j'en ai eu marre d'être un peu la cinquième roue du carrosse. Et je me suis décidé à faire mes propres histoires.
D'accord. Donc, et tes propres histoires, ça commence
par Pinocchio. Oui.
Par Pinocchio. Voilà. Donc, tu nous as dit pourquoi tu avais envie de le faire. Donc là, on n'a pas la couverture, mais...
Non, je n'ai pas retrouvé la couverture, mais on a la première planche.
Mais tu nous montres une planche de Pinocchio, là, je trouve qu'il est... On va regarder tout à l'heure, je trouvais que bon, par rapport moi, à mes souvenirs que j'ai de Pinocchio, c'est quand même quelque chose qui se passe plus dans les tons rouges que verts. Et là, tu mets quelque chose quand même... Déjà, tu définis un univers qui est quand même assez... Après, moi, alors là, c'est purement subjectif, hein, ce que je dis. voilà, toi, tu peux nous... Pourquoi tu as pris bon, cette espèce de vert, quelque chose comme ça, quoi.
Oui, il y a des teintes très vertes, très mordorées dans tout l'album, dans tous les trois albums. Ça tient de l'axe narratif que j'ai choisi, en fait. Et tu as tout à fait raison, puisque pour moi, Pinocchio, c'était devenu une histoire entre... d'un personnage qui doit choisir entre l'humanité et la socialisation qui va avec, la rencontre de personnes, et puis la nature. Et puis la nature, c'est-à-dire que pourquoi pas redevenir un arbre après tout, hein, pourquoi aller s'intéresser à tous ces humains et à être malheureux. En fait, oui, on peut être aussi heureux avec les humains. Donc c'était toute l'histoire de Pinocchio, quoi. Voilà.
Donc cette histoire un peu difficile à trouver, je crois. Maintenant,
oui, bah maintenant difficile à trouver puisque Paquen n'a pas fait de suivi sur le long terme. Donc je sais, étrangement, je sais qu'on le trouve encore en librairie.
Oh, mais d'accord, bon, bah, il faudra un peu fouiller quoi, pour ceux qui voudront le découvrir.
Il faut faire de l'archéologie.
non, il y a des catalogues de librairies qui existent encore auxquels on a accès. Deuxième album que tu as proposé, ça s'appelle Entre les ombres. C'est vrai, j'oublie rien, entre les deux, entre Pinocchio et Entre les ombres.
Il y a eu deux, trois trucs, mais tout à fait annexes et accessoires. Et
anecdotique, quoi. Ouais. Alors, Entre les ombres, donc ça, ça apparaît en 2010, hein, je pensais ça.
2010.
Ouais. Donc, qui sera dans la sélection déjà pour les Utopiales de 2011, parce qu'on parle en 2010. Donc, oui. Alors, cet album, c'est déjà dans, à l'époque un format un petit peu particulier, puisqu'on n'est plus dans le format des albums classiques, ce qu'on appelle les grands cartonnés couleurs. Là, on est dans un format un peu plus petit, qui n'est pas encore du roman graphique. Et non. C'est un album.
C'est plus un format comics, en fait.
Ouais, c'est plus, voilà, c'est ça. C'est un format comics. Donc, on a la couverture là et on voit qu'on va être dans un univers quand même un peu particulier avec ce personnage avec son drôle de chapeau qui regarde de haut une ville. Oui. Une ville qui est quand même envahie par une végétation luxuriante et puis un peu sauvage finalement. Quoi. Donc, oui, oui, et on va suivre l'histoire de ce personnage. Tu peux nous le définir un petit peu ?
Alors, ce personnage n'a pas de nom déjà.
Oui, c'est vrai.
Ça peut paraître étrange, mais c'était pour ne pas l'identifier comme un personnage précis, comme une entité précise. Ce que j'ai désiré avec ce bouquin, c'est de faire un livre d'ambiance et qu'on ait une capacité à s'identifier à ce personnage qui soit suffisamment forte. La quatrième de couverture, pour vous donner un état d'esprit, parce que c'est un livre dans un contexte post-apocalyptique, c'est après l'apocalypse, je me suis mis à la pêche.
Voilà, on le voit dans les premières pages.
Voilà. Et l'idée, c'était de dire, c'est pas grave, on a un contexte qui est dramatique, mais la vie du personnage ne va pas l'être tant que ça. C'est vrai qu'il se retrouve dans une grande ville, comme on voit sur la couverture, une grande mégapole, et il est le dernier homme sur Terre. Mais du fait qu'il est dans cette mégapole, eh bien, il a rien à rechercher pour sa survivance. Tout lui est donné. Donc les seuls problèmes qu'il va rencontrer, c'est la solitude. Et c'est le problème ultime. Donc c'est finalement, le contexte post-apo, il est plus un prétexte à faire une histoire de Robinson et de voir comment, quand un personnage est seul comme ça, en sachant qu'il n'a pas d'échappatoire à cette solitude, comment est-ce qu'il réussit quand même à vivre ? Voilà, c'est toute l'histoire. Et pour appuyer cette histoire, la couleur, là, est assez tranchée, assez... ça va beaucoup dans le monochrome. On dirait que c'est pas mal dans le camailleux. Et il y a grosso modo trois ambiances dans cet album-là. On a des ambiances gris-bleu pour ce qui est des souvenirs. On a des ambiances où le vert est dominant quand il s'agit d'être de nouveau un peu plus proche de la nature. Et puis, on a des ambiances ocre-grise une fois qu'on est uniquement dans la ville et les restes de la civilisation.
Donc, tu avais choisi un format comics, donc il y a un format plus petit que l'album traditionnel, mais ça t'empêche pas quand même d'avoir des découpages et des organisations de pages comme on voit là, où il y a quand même, je compte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cases, mettre 11 cases et avoir une grande lisibilité et que chacune soit très claire, c'est quand même quelque chose de, un petit exercice, je pense, technique qui mérite pas mal de réflexion et pas mal d'explications.
Oui, alors il y avait effectivement un challenge à avoir une densité telle sur des petites pages. Le challenge, c'est de ne pas perdre le lecteur dans un fourmillement de détails et dans un univers qui serait graphiquement extrêmement riche, justement, en détails. C'est toujours le problème du taux d'information qu'on fait passer dans chaque image. Et pour cet album-là, c'est d'abord l'ambiance qui a été mise en valeur. Donc, finalement, lorsque l'on regarde ces images, on se rend assez vite compte qu'il y a peu de choses sur lesquelles on va s'arrêter. À chaque fois, on a un, voire deux éléments graphiques qui sont importants, qu'il faut vraiment identifier, qui font du sens, et le reste n'est quasiment que esquissé, que évoqué. Et du coup, on peut passer dessus sans que ce soit trop prégnant, qu'on se dise, tiens, ce détail, qu'est-ce que ça veut dire ? Tiens, ce bâtiment derrière, est-ce que c'est un truc important ou quoi ? Non, on peut filer dessus, quoi.
Donc, ouais. Et donc, cet album, bon, tu... bon, on a vu tout à l'heure les Pinocchio avec ses cases claires, sa couleur qui était plutôt une couleur, je ne vais pas dire illustrative, mais une couleur, de, pas, même pas d'ambiance, mais de fond de décor. Alors que là, dans cet album, tu vas utiliser la couleur comme élément narratif, justement, puisque tu as décrit qu'il y avait certaines qui c'était des formes soit de monochromie, soit de bichromie, chacune oui. Qui ressemblait à une ambiance. Alors, tu... donc. Le fait d'utiliser la couleur comme élément narratif, ça t'est venu comment finalement pour...
Ça m'est venu de mon expérience en tant que coloriste, parce que finalement, quand on a affaire à un auteur de bande dessinée qui veut que l'on mette son album en couleur, en général, on a deux éléments principaux qui sont demandés, c'est l'aspect décoratif, hein, créer... de la crédibilité pour cet univers en noir et blanc, et puis le sens même, c'est-à-dire la symbolique qu'apporte la couleur dans le récit. Et bizarrement, je me suis rendu compte que la plupart du temps, c'est l'aspect décoratif qui supplantait l'aspect symbolique. Que l'aspect symbolique, finalement, les auteurs... mettait ça assez souvent de côté et essayait la plupart du temps d'avoir un rendu naturaliste, hein, c'est-à-dire que la couleur évoque les éléments qui sont représentés dans le dessin et ça s'arrêtait souvent là. Moi, j'avais vraiment eu envie, du coup, pour cet album en tout cas, d'avoir non pas une couleur naturaliste, c'est bien évidemment pas ces couleurs-là qu'on retrouve quand on sort dans la rue. Mais d'avoir un sens vraiment marqué pour chaque élément, quoi. Donc, quand le personnage se retrouve sur ces grandes lianes, eh bien, il y a de la vie. Et le vert représente ça, hein, ce vert jaune. Et c'est aussi la possibilité d'un trajet, donc la possibilité d'avancer dans la vie. Et si je vous remontre la couverture avec ces grandes lianes qui passent au travers des bâtiments, qui passent au travers de ces ruines, eh bien c'est finalement c'est ça. On a une symbolique, y compris dans l'image, qui dit que le personnage va devoir s'élever. Il va devoir quitter le sol, quitter le béton, quitter la grisaille de la ruine pour marcher sur ces grandes lianes. Et continuer son voyage. Voilà. Et puis, il y a, bien sûr, ces souvenirs qui sont traités dans les couleurs gris-bleu, ouais, gris-bleu, qui, là, ouais. Sont aussi spécifiques. Et le souvenir est lui-même là pour le faire avancer.
Donc, voilà. Donc, bon, tu sors entre les ombres, ouais. Album un petit peu... Déjà, bon, en 2011, un petit peu atypique, là. Et puis, on va... Ton envie après, c'est de faire quelque chose. Tu vas nous proposer. Bon, voilà. Quand tu as fait cet album, bon, je sais pas comment il était diversement accueilli.
Ça a été plutôt Utopia. Bien accueilli. Hein,
oui, il a été bien accueilli. Donc toi, tu te dis maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire comment pour ton projet suivant, comment tu réfléchis, comment tu l'analyses?
Il y a du temps qui se passe entre les deux projets. C'est évident, hein, parce que pour le suivant, ça se passe. 3 ans après la mise en œuvre, le début de la mise en œuvre du suivant. Donc, entre-temps, j'ai fait d'autres choses. J'ai pas fait de bande dessinée, d'ailleurs. Et mettre en route un projet différent pour moi, ça veut dire accueillir une nouvelle esthétique, accueillir un nouveau format d'histoire, parce que j'ai pas envie de m'ennuyer à refaire tout le temps la même chose. Donc, il était hors de question que je fasse une sorte de Entre les ombres 2 qui se passe sur une île paradisiaque ou je ne sais quoi. Ça ne m'intéressait pas. Par contre, chaque album, pour moi, il est réellement lié à ma vie personnelle. C'est pour ça que c'est la perception que le lecteur peut en avoir est forcément différente de celle que je peux en avoir moi, parce que chaque page résonne avec des souvenirs de ce qui s'est passé au moment où je les ai faits. Et la mise en route de l'album suivant, ça s'est fait aussi sur mon vécu personnel. Et je l'ai engagé principalement pour mes filles. J'ai 3 filles. Et je me suis rendu compte de quelque chose d'assez important pour moi. C'est que leur lecture de bande dessinée, eh bien, soit c'était de la lecture voilà, de n'importe quel album. Soit c'était de la lecture genrée, hein, la BD pour filles, du genre des Sisters, Lou. Bon, c'est très bien, j'ai rien contre ça. Je n'émettrai pas de jugement de valeur sur la qualité des albums. Donc, moi, je les lis aussi, c'est pas un problème. Mais ce qui m'a ennuyé, c'est de me dire que finalement, la majorité de la production de bande dessinée ne produisait que des héroïnes qui n'étaient pas tellement des héroïnes, qui étaient beaucoup des héros avec une peau de fille dessus. Et il y a bien des exceptions.
Oui, on en parlait tout à l'heure, finalement, avec des personnages comme peut-être pour une BD qui s'adresse à des jeunes filles, des adolescentes ou des préadolescentes. Quoi. On parlait de ça, on avait retenu peut-être des gens comme Yoko Tsuno.
Oui, et qui sont des...
Natacha.
Natacha, Jeannette Pointu.
Oui, un personnage complètement oublié qui, dans les années 80, était une espèce de Tintin féminin qui partait à travers le monde.
Ouais.
Mais en plus, sur des lieux où il y avait des catastrophes naturelles, des lieux... Elle était située dans l'actualité à l'époque.
Hein. Oui, c'était pas anodin quand même.
Oui, et puis après, on parlait aussi de personnages type des héroïnes qu'on avait vues dans la bande dessinée ancienne. Barbarella.
Oui.
On parlait de Barbarella, bon personnage créé par Jean-Claude Forest, qui on disait que c'était un peu vintage maintenant.
Ben... Oui, c'est vintage, bien sûr, et on n'a pas envie de voir un album qui sortirait aujourd'hui avec un archétype féminin fait de la même façon. Ça serait quand même caricatural.
Ouais.
Mais c'est vrai que... Au moment où Barbarella est sorti, c'est, en soi, c'était une sorte de révolution. Déjà,
oui, bien sûr. Ouais. Puis en plus, il y avait eu le film avec, je ne sais plus comment s'appelle l'actrice, j'oublie le nom. La fille d'un acteur célèbre.
Je ne sais plus non plus.
Ah oui, bon, c'est pas grave.
C'est pas grave.
Et puis en plus, on parlait aussi de la bande dessinée, quand ils mettaient des filles en scène, elle avait plutôt un côté, comment dire, moi je me rappelle de séries noir et blanc comme Diabolique, elle avait un côté très sensuel pour les garçons. Quoi.
Oui, oui.
Voilà, ça, c'était quelque chose des années 60, 70, même et 80. Quoi.
Tu sais, ça continue aujourd'hui. La plupart des personnages féminins en bande dessinée, ils sont sexualisés.
Oui, bien sûr.
Et c'est aussi pour genrer les personnages, on retrouve des archétypes et malheureusement, c'est trop souvent, on va dire, teinté de machisme, pour être gentil.
Voilà. Bon, on disait aussi tout à l'heure, comme ça, parce qu'on fait un petit aparté, l'auteur de ça, qu'il se développe une BD féminisée, féminine, faite par des femmes et qui évoque des problèmes un peu féminins, quoi.
Ouais. Voilà. Oui, donc, ça c'est très bien qu'il y ait aussi une bande dessinée qui soit revendicatrice et que les femmes qui ont des choses à dire les disent, c'est très... heureusement.
Donc toi, pour répondre à cette demande d'une bande dessinée qui va s'adresser, qui va avoir comme héroïne un personnage féminin réel, tu vas créer Nefer.
Voilà.
Nefer dont on voit la couverture là. Donc,
sans
alors,
le titre.
Alors je vais revenir sur un truc, là, une petite question que j'ai oublié de te poser par rapport à Entre les ombres. Technique dessin, pur simple. Entre les ombres, c'est crayon papier.
Entre les ombres, c'est crayon papier. Oui.
Ouais. Donc d'accord, qui impose
crayon de couleur.
Crayon de couleur, papier, ouais. Toute simple technique traditionnelle. Par contre, Nefer, tu changes complètement de technique.
Bah disons
tu
que vu la taille, oui. Vu la taille de l'album, ça s'est fait quand même de façon assez progressive. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui sont faites sur papier, c'est scanné, et puis ça part ensuite en numérique. Et puis, au fur et à mesure que l'album a été avancé, eh bien, plus ça a été, plus j'ai travaillé en numérique. Alors, pour les fétichistes de la planche originale, c'est vrai que c'est dommage. La plupart des gens qui me parlent de ça me disent « mais tu n'as pas d'originaux ». Alors en fait, si, j'ai une série d'originaux qui ont été faits spécialement pour l'occasion, par exemple, de faire une exposition. Ça permet d'avoir quelque chose de concret sur du papier qui a été dessiné directement dessus. Mais là, pour le coup, je suis dans la posture de l'auteur qui travaille essentiellement en numérique et qui va prévoir que ce n'est pas forcément suffisant pour la vie de l'œuvre, et du coup, on en fait une partie quand même en traditionnel. Quoi. C'est assez étonnant, mais c'est vrai que c'est pas si mal de le penser comme ça.
Ouais, c'est vrai qu'on imagine que le numérique, bon, on peut faire tout à l'ordinateur. Exemple, oui. Denis Bajram, qui lui n'utilise pratiquement pas de papier.
Et beaucoup... Ça fait longtemps que je crois que Denis n'utilise plus de papier.
Il n'utilise pas de papier. Ouais. Et toi, par exemple, tu vas jouer entre les deux. Tu vas faire des choses en numérique, tu vas scanner, tu vas reprendre, tu vas rescanner pour finalement arriver à ton résultat final. Quoi.
Oui, voilà. Y a des planches où je me retrouve. On peut peut-être avancer dans le... dans le slide. Est-ce que je montre
Oui. Oui, vas-y, fais-le comme tu le sens.
Alors, on va aller, par exemple, sur où est-ce qu'elle est, la... mais il me manque la page en noir et blanc, du coup, mince.
Bon, c'est pas grave.
C'est pas très grave. Mais bon, sur une image, sur une planche comme celle-ci, où l'ambiance colorée est très importante, si on exclut la couleur, on se rend compte que du point de vue du dessin, il n'y a pas énormément de choses. Et là, finalement, la qualité principale de la page, elle se place dans la couleur. Et la couleur, elle est faite de façon numérique. Le dessin n'est qu'un support, là, réellement, à l'ambiance colorée. Quoi.
Enfin, on en parlait avant, disait que finalement, les outils, enfin, pour aboutir à faire une bande dessinée ou du dessin, les outils changent, mais il faut quand même les utiliser. Donc, toi, tu utilises un logiciel, mais tu m'expliquais que dans ce logiciel, finalement, il y a des préacquis, il y a des manières.
Oui.
Mais que toi aussi, dans ce logiciel, tu peux amener des outils que tu crées toi-même. Quoi.
Voilà. Bon, c'est tout simple. Hein. Je travaille sur une tablette avec un stylet. Donc, l'un dans l'autre, ma pratique, ma praxie, elle ne change pas. On est toujours avec le même outil sur un format plat. Hein. Ça, et puis aujourd'hui, la technologie est telle que ça retranscrit des sensations de dessin qui peuvent être agréables. Et cet aspect-là, en tant que dessinateur, c'est quelque chose d'essentiel. Hein. Si on n'a pas le goût du tracé sur la surface, bah, il nous manque quelque chose. Et c'est vrai que les outils d'aujourd'hui nous rendent ça en partie. Alors, bien sûr, ce n'est pas la même sensation que le crayon sur le papier ou que la plume traçant sur le papier, c'est une autre sensation, mais elle a ses qualités et du coup, c'est quand même bien. Enfin, je trouve ça agréable de dessiner avec. Et une fois qu'on est dans le logiciel, là, c'est devenu un peu la boîte magique de l'illustrateur, puisque bien sûr, on retrouve des simulations des outils traditionnels. Donc, on peut faire du crayon à papier, on peut faire de la gouache, on peut faire de l'aquarelle, et que ça dégouline. Enfin, bon, je vous passe les détails. Mais on peut aussi se créer soi-même ses propres outils, des choses qui n'existent pas, en fait, non plus, dans les outils traditionnels. Et pour ce qui est de Nefer, j'ai beaucoup dessiné avec la gomme. C'est-à-dire que, de façon traditionnelle, c'est très difficile de travailler en soustraction, en enlevant de la matière. C'est quand même compliqué. Et en numérique, c'est tout à fait aisé de faire ce genre de choses. Donc on peut faire de l'aquarelle en enlevant. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté. On peut retrouver de la lumière en enlevant du pigment, finalement. Et puis on peut en remettre, et ainsi de suite. Et il y a un travail qui devient vraiment un flux de production, où le fait de mettre de la matière, de mettre de la couleur, de tracer, de faire du trait, il y a beaucoup de tracés hein, dans la page là qui est présentée, on oublie quasiment qu'on est soit en train d'en mettre, soit en train d'en enlever. Ça fait vraiment partie du process qui mène à la production finale de l'image. Quoi. Voilà.
Okay. Non, c'était bien d'aborder la technique parce que je crois qu'elle a tellement évolué depuis des années par rapport aux années 60, 70, 80. Et l'arrivée du numérique fait que ces outils là, facilitent la tâche. Et bon, après, finalement, la patte de l'auteur ressort quand même, quel que soit l'outil qu'on utilise. Quoi.
Donc, oui, de toute façon. Et c'est vrai que si ce que je fais a toujours un aspect de crayonné, de crayon de couleur, c'est parce que ça, c'est mon goût original en traditionnel. Et je le retrouve, en fait, en numérique. Hein, le numérique, ce n'est pas une touche sur laquelle on appuie. Hop là, reviens. Ce n'est pas une touche sur laquelle on appuie pour que, hop, d'un coup, une image soit formée. Non, bien sûr, c'est du travail et c'est une sensibilité. Et j'essaye de retrouver la sensibilité que j'aime en numérique comme je l'aime aussi en traditionnel. Quoi.
Donc, on va revenir à la genèse de Nefer. Ouais. Donc, Nefer, donc... Tu choisis de prendre, comme on voit sur la couverture, une héroïne, pour raconter une histoire. Et tu vas créer tout un univers, qu'on voit là, dont on voit ce qui est sur les pages de garde de l'album, où il y a, voilà, on voit l'océan Pacifique, l'Eurasie, l'océan Tétis, le Gondwana. Donc ça fait appel comment à quelque chose de là.
Ça fait appel à une imagerie à laquelle on n'est pas habitué en fait en bande dessinée. C'est assez peu abordé. C'est, on est au-delà de la préhistoire, on est 90 millions d'années en arrière. C'est le contexte de l'histoire. C'est anecdotique, au sens où ce qui compte réellement, c'est qu'on se dise qu'on est transporté dans un autre monde, hein, qui n'est pas le nôtre actuellement. Moi, je trouvais ça intéressant de créer de la mythologie dans cette histoire. Et pour créer de la mythologie, il faut quand même l'ancrer dans une certaine cohérence et le placer là, dans un monde très ancien, dont il nous reste que des fossiles, soit de dinosaures, soit de mammifères géants. C'était évocateur déjà dans le contexte. Ça stimule l'imaginaire déjà. Et la création de cette carte là, c'était typiquement ça. C'était se dire ah oui tiens, c'est, je reconnais un peu notre monde. On voit un peu les continents qui sont déjà en train de se former et de s'éclater. Hein. C'était ça l'idée. Ouais.
Mais alors, que ce soit dans la bande dessinée ou la littérature, le fait de créer quand même des cartes, des mondes comme ça, c'est quand même très spécifique à la fantasy, quoi.
C'est très spécifique à la fantasy. C'est vraiment l'idée que, on vous expose grâce à une carte les lieux où se passe l'action, et puis vous pouvez y revenir pour vous dire ah oui, alors les personnages vont passer par là. Cette action se situe ici et finalement c'est une sorte de cartographie mentale aussi que l'on se fait du récit grâce à la carte réelle qu'on a sous les yeux. Oui.
Donc voilà. Donc tu vas nous donc Nefer qui est notre héroïne dans la première page, on va la découvrir là, c'est son petit bâton là que je comment dire peut dire vas-y.
Alors hop, je reviens là.
Première page. Voilà, on voit Nefer, donc plan classique, hein, une espèce de zoom qui arrive sur Nefer, qui est sur un bâton et qui arrive.
Le fameux bâton magique.
Un bâton magique, on la voit qui arrive et elle va avancer. Puis, toi, ce que tu voulais montrer par cette introduction, c'est que, on est sur un personnage complètement solitaire.
Voilà.
On peut presque dire qu'il est en fuite.
C'est un personnage en fuite, tout à fait.
Donc on va
c'est quelque chose qui est plus clair dans les dialogues, dans le monologue qu'elle produit dans la deuxième page.
D'accord. Donc voilà. Et ce personnage en fuite va arriver à un univers qu'on va avoir, sur lequel avance. À moins que tu aies autre chose à dire sur cette page, non ?
Non, moi, ce qui était important sur les deux premières pages, c'était de présenter ce personnage humain. Parce que finalement, il y avait une difficulté. C'était de présenter ensuite des personnages qui ne sont pas humains. Et pour lesquels on va avoir, en tout cas au départ, du mal à les dénommer, à comprendre qui ils sont et à les identifier. Avoir l'héroïne qui rentre en scène immédiatement, ça avait au moins la valeur de planter le décor immédiatement, de savoir qui allait être le centre de l'histoire.
Voilà. Donc je vais faire un petit retour en arrière sur la création un peu de ça. Donc là, on découvre Nefer. Mais avant de créer ce genre de bande dessinée qui est de la fantasy, qu'on va créer un univers qui est complètement inventé, il faut quand même que toi, tu fasses des recherches. Quoi.
Oui.
Voilà, donc tu fais des recherches. Donc tu as fait des recherches sur ces personnages. On voit que quand même ces costumes et tout sont très travaillés. Tout ça. Et tu as fait aussi des recherches dans cet univers. On va trouver un bestiaire. Et tu as les images du bestiaire que tu vas composer. Parce que je trouve ça... En plus, ça va être... Je crois qu'ils sont noirs et blancs. Voilà. Tu vas créer un bestiaire avec des animaux, qui sont des... On pourrait dire... Je ne vais pas dire des hybrides, parce que ça serait quelque chose de futuriste, mais comme on remonte dans le temps...
Ce sont des sortes de chimères, on dirait.
Voilà.
C'est-à-dire qu'en général, je suis parti d'un ou deux concepts d'animaux différents, et puis j'ai réuni ça pour faire finalement des races animales dont on pourrait se dire qu'elles auraient pu exister lors de cette période. Mais on est dans la fantaisie, hein, on n'est pas dans un naturalisme où on retrouve, par exemple, stricto sensu, les mammifères géants de la période. Non, ce n'est pas le cas. On est vraiment quand même dans l'idée d'avoir, certes, un bestiaire crédible, mais pas,
pas scientifique fondé, du tout. Hein,
pas scientifique.
Et petit, attends. Puis alors, à chaque animal, tu associes peut-être quelque chose. On peut appeler ça un signe zodiacal ou pas? C'est un petit clin d'œil.
C'est pas un signe. C'est pas vraiment le signe zodiacal, mais bon, il y a des constellations qui sont représentées, à côté. L'album est sous-titré Chants et contes des premières terres. Et Chants et contes des premières terres. Quand on a à peu près terminé cette histoire, on se rend compte qu'on a eu une histoire. Alors, ils sont où, les chants et contes des premières terres? Mais ils sont dans l'annexe, je dirais, dans cette fin d'album où on propose une histoire, notamment autour de ce bestiaire. Ça, j'en avais parlé avec Thierry Jour et on s'était dit que ce serait quand même marrant d'avoir une histoire autour de ces animaux qui sont là uniquement en décor dans l'album, mais de leur donner un vrai rôle dans cet univers-là. Donc il y a une histoire que j'ai rédigée par la suite pour créer un peu plus de mythologie, pour donner un peu plus de corps à cette idée de chants et contes. Voilà. Et donc s'il y a ces constellations, c'est que chaque animal en fait, dans cette histoire revendique sa place dans le panthéon stellaire. Et un peu à la manière des histoires comme ça de Rudyard Kipling, chacun va être un peu en opposition aux esprits créateurs pour dire oui, mais moi je suis aussi valeureux que je suis aussi valeureux que l'ibis, j'ai aussi le droit d'être dans le ciel et ainsi de suite. Voilà. Donc c'était une manière d'enrichir en fait encore l'univers.
Donc voilà. Donc on va revenir à Nefer et son aventure. Donc qui va. On va leur, voilà. Voilà encore un exemple d'un.
Donc, il y en a pas mal. Hein. On les retrouve tous dans l'album, mais de façon très. Oui, vraiment dans le décor, de façon.
Bon, assez on les trouve en personnage. Voilà. Sur celle-là, il y a un truc intéressant sur la technique que tu as pu utiliser, parce que si vous regardez le dessin, on en parlait l'autre jour. Ah, oui. C'est un dessin qui est très géométrique. Hein, si vous regardez le truc, vous verrez que les pattes à droite ou à gauche, elles sont exactement pareilles. Tu peux expliquer comment tu as fait ça?
En fait, ça ne se voit pas forcément, mais il a été fait complètement en numérique, ce dessin. Et j'ai utilisé une fonction dans le logiciel de dessin que j'utilise à ce moment-là, qui permet de créer de la symétrie. Donc, en fait, de cette... proto-araignée, j'en ai dessiné que la moitié. Et l'autre moitié s'est générée de façon automatique pendant l'acte de dessin lui-même. Il y a des éléments qui ne sont pas vraiment symétriques. Quand on regarde l'abdomen de l'araignée poilu, là, on se rend bien compte que oui, ça se ressemble, mais le tracé n'est pas exactement le même. Et là, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, on va casser cette symétrie. On va faire en sorte qu'on n'ait pas le sentiment d'avoir quelque chose de totalement mécanique. Mais si on regarde un peu plus les pattes, on va se rendre compte que ce sont strictement les mêmes à gauche et à droite. Voilà.
Donc ça,
c'est un petit truc.
Mais non, c'est quand même une facilité qu'amène quand même l'ordinateur, le
oui,
numérique.
Oui, quand on a besoin d'une symétrie, eh bien oui, il y a des outils qui le permettent. Mais il faut aussi avoir conscience que la symétrie, ce n'est pas toujours génial quand c'est parfait.
Il n'y a pas d'animaux parfaits. Ouais, voilà. Quand on se regarde chacun, on voit bien qu'on n'est pas symétrique. Une glace, c'est pas tout à fait ça.
C'est sûr. Voilà. Donc. Alors, il nous en reste deux ou trois encore.
Oui, voilà, on va regarder.
Bon. Non, une espèce de mix entre une antilope, il y a tout un tas de...
Altamanoir. Noir. Voilà. Ah si, à propos de Nefer et le lettrage, là, tu me cites une anecdote là, à propos de ça.
Ça?
Ouais.
Oui, en fait, on n'a pas très bien réussi à se mettre d'accord avec Thierry Jour sur le lettrage du titre qui était produit à l'origine par le studio qui fait la conception graphique de l'album. Et du coup, je me suis retrouvé à le faire moi-même, donc à l'encre de Chine, hein, peindre ça... Mais je ne suis pas lettreur, je n'ai pas la formation pour le faire. Et c'est assez difficile de faire des lettres qui rentrent dans le gabarit de quelque chose qui ressemble à une police de caractère. Ce n'est pas une police de caractère, tout ça c'est dessiné à la main. Alors il y a eu beaucoup de dessinés jusqu'à trouver une forme qui me plaise. Et en fait, il n'y a pas une forme qui m'a plu, il y a des éléments dans plusieurs lettres qui m'ont plu. Et là, encore une fois, le numérique est rentré en ligne de compte après coup, puisque j'ai numérisé tout l'ensemble et puis j'ai fait un peu de découpage pour réussir à modeler ce lettrage tel qu'il est là, en fait, devant vous. Le R, notamment, il est fait de deux R dessinés de façon relativement similaire. Le E, vous vous rendez compte que les deux ne sont pas exactement les mêmes. Il y a des éléments qui sont réellement symétriques. Et puis, il y en a d'autres qui leur sont propres. Tout ça, c'est des mélanges. On n'imagine sans doute pas ça au départ.
Voilà. Donc, on va arrêter un petit peu sur la technique maintenant. Ouais. Et puis, on va revenir à l'histoire de Nefer. Donc, comme on a vu dans la première page, on voit Nefer dans la steppe avec son bâton.
Oui.
Et la page suivante, on va voir Nefer qui est en scène de nuit, qui va être un peu fatiguée. Elle est toute seule, elle est solitaire, comme elle est en fuite. Et là, elle l'annonce dans la page 2. Voilà. Et bon, page 2, on a une rupture et on bascule sur la page 5. Sur la page 5, qui va nous présenter. Bon, alors on était dans un univers de steppe qui était dans des couleurs jaunes, bruns, orangés. Et là, on va partir dans un univers complètement vert, donc univers de vie. Où apparaissent des personnages assez extraordinaires, ouais, qui sont là et qui vont, dans ces personnages dans le récit. Tu vas nous expliquer un peu leur rôle quand même dans ce récit là.
Dans le récit, oui. Alors ces personnages sont très importants puisqu'ils symbolisent la mémoire du monde. C'est déjà pas mal comme symbole. C'est assez lourd à porter. Et c'est de la statuaire, ils sont faits en argile, ils sont. On leur a donné vie par une opération magique, par une opération chamanique. Et ce don de vie n'est pas anodin puisque les gens qui ont fait cette opération se sont sacrifiés eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont donné leur esprit pour donner vie à ces êtres-là. Et puis il se trouve que dans l'histoire de ce monde, ces personnages ont eu le rôle de gardien, ont eu le rôle de pilier de la civilisation, mais que ça s'est mal passé et que aussi bien ils peuvent être imposants, forts. Comme des robots géants, on pourrait dire, aussi bien leur esprit restait faible à un impact de magie, à un impact de chaman, et les hommes eux-mêmes pouvaient prendre possession de ces êtres assez facilement par le jeu de l'esprit. Ouais. Ces anciens, alors, ils deviennent avec le temps, on les nomme les anciens, ont décidé de quitter le monde, de s'écarter de la vie des hommes et de vivre reclus dans une vallée perdue et de ne plus prendre part au destin de l'humanité.
Mais quand même, ils vont être rattrapés par la réalité.
Ils sont rattrapés par la réalité parce que finalement, même si ça fait plus de 1000 ans qu'ils sont sortis de l'histoire des hommes, personne n'est immortel. Et la pierre non plus, et la construction non plus. Et les plus grands d'entre eux commencent à tomber en poussière. Bien sûr, ils ont conscience de leur finitude et ce n'est pas tellement ça le problème. Leur problème, c'est que avec leur disparition, disparaît toute l'histoire qu'ils contiennent.
Donc, ce qui va être un moment important, un peu clé, un peu plus tard, ça va être la rencontre finalement de Nefer avec un de ses anciens.
Voilà.
C'est Septentrion, je crois que c'est ça.
Oui, Tour du Septentrion.
Voilà.
C'est un ancien qui a un caractère assez paternaliste, assez bourru. Et plutôt misanthrope. Hein. Lui, il est vraiment pour l'idée de rester dans la vallée. Et puis, tant pis si tout ça disparaît. Alors qu'il a un comparse qui s'appelle Tour d'Ivoire, qui lui est beaucoup plus dans le retour à, à un dialogue avec, avec les humains et peut-être même l'idée de retransmettre finalement tous ces savoirs, toute cette histoire qui sont contenues en eux, de le retransmettre de nouveau aux humains. Et c'est vrai que par la rencontre avec Nefer Septentrion, on va beaucoup évoluer et va se retrouver dans une posture où il prend le relais de ce que Ivoire a initié au départ.
D'accord. Donc la rencontre va se faire bon, parce que Septentrion va retirer comment dire Nefer des griffes d'animaux qui lui voulaient du mal et il va l'emmener avec elle. Et ils vont partir pour un voyage qui va devenir pour finalement pour Nefer hein, une sorte de voyage initiatique dans lequel elle va rencontrer. Mais comme elle est en fuite, on va apprendre après un moment que pourquoi elle est en fuite et elle va retourner dans son village, enfin dans son village natal ou sa ville
voilà,
natale.
Voilà, dans sa ville natale.
Dans sa ville natale où elle va retrouver son oncle et son oncle va lui faire un petit discours comme elle a été vendue un peu à la manière, elle a été vendue comme compagne.
C'était une esclave.
Voilà.
Et elle a été vendue pour des raisons politiques. Il s'agissait de créer une alliance avec un potentiel ennemi. Et d'asseoir en fait la paix entre deux royaumes, dont un qui visiblement avait des velléités guerrières et d'expansion, et l'oncle qui est le roi du petit royaume des hommes fourmis, avait décidé de créer une alliance en mariant Nefer lors de ses 13 ans au souverain d'en face.
Voilà. Donc. Septentrion va la ramener dans son village natal où Nefer va se retrouver face à son oncle et à un chaman qui l'ont vendu et elle va effrayer la colère et puis avec le discours de son oncle qui essaie de lui dire oui mais tu dois respecter un discours très paternaliste, tu dois respecter les règles et tout ça, et là elle va se mettre en colère et là je trouve qu'il y a quand même une page très importante qui c'est cette page là qu'on va voir en noir et blanc et en couleur. On va d'abord la voir en noir et blanc et là Nefer se dénude mais pour montrer ce qui lui est arrivé là-bas. Donc on le voit en noir et blanc, quand même, c'est quand même très fort. Elle a le corps qui est marbré, scarifié, donc ça veut dire qu'elle a été utilisée comme esclave sexuelle, a été violée pratiquement. Donc elle le dit à son oncle. Mais la représentation est intéressante parce que ça montre les traces, ça montre ce qui s'est passé sans être, comment dire, quelque chose de voyeur, quoi. Ça, c'est un écueil qui est compliqué, je pense, à éviter quand on fait... un dessin et qu'on met un corps féminin nu dans une bande dessinée. Quoi.
Oui, tout à fait. Il y avait un vrai challenge pour moi. Là, c'était vraiment pas évident. Et en fait, le challenge, il est à plusieurs niveaux. La première chose, c'est que Nefer vit dans une société patriarcale où les femmes n'ont pas le droit de citer. Et la puissance de ce roi s'exprime par les mots. On voit dans le strip central, on voit bien le pavé de texte, hein, tout le discours, tout ce que rappelle le roi à sa nièce de sa position, de son statut, de la raison d'être même, selon lui, de sa nièce. Et là où Nefer devient une réelle héroïne, devient réellement forte, en tant que personnage, c'est qu'elle balaye tout ça d'un seul geste en enlevant sa robe. Elle ne dit rien, elle a besoin de ne rien dire pour exprimer ce qu'elle a subi. Il suffit de le voir. Et c'était sans doute le meilleur moyen d'exprimer ça d'un coup. Parce que la violence faite à la femme, on peut avoir tous les discours que l'on veut autour, mais quand on le voit, eh bien, il y a quelque chose d'inéluctable. Et c'est la seule fois où on la voit dénudée dans tout l'album. Et ce n'est pas sexualisé. Hein, il n'y a pas d'érotisation du corps du tout dans cette image. Et c'était important pour moi parce que c'est fondateur du personnage. Avant, Nefer n'est qu'une enfant en fuite. Et à partir de ce moment, c'est une jeune femme qui a été blessée et c'est quelqu'un qui prend son destin en main. Et là où elle n'avait aucune place dans le monde à part celui d'esclave, eh bien là, à ce moment-là, elle crée sa place. Elle dit « Je suis une femme, je suis une héritière et je ne vais pas me plier aux règles qui me sont données et je vais changer toutes ces règles par ma seule présence.
Donc on peut le montrer, là on nous a montré l'image noir et blanc qui est déjà très forte, qui est forte.
Et l'impact en noir et blanc est sans doute un peu plus fort qu'une fois qu'on
voit la couleur.
En couleur.
Que la couleur.
La couleur reste quand même avec un côté assez décoratif dans l'album. Et l'aspect décoratif de la couleur est important parce qu'il donne du corps à cet univers. Et c'est un univers complet de fiction. C'était important qu'on puisse y croire.
Et ce qui est important aussi dans cette image, c'est la dernière case où vous voyez les deux personnages, son oncle, dont on voit très bien qu'il a perdu un œil, donc il est borgne, et on voit le chaman. On voit, oui. Voilà, l'oncle, on voit bien que la symbolique d'avoir perdu un œil, ça veut dire qu'il voit pas tout,
oui,
ce qui se passe.
Oui,
et le chaman qui lui tourne la tête pour, c'est lui qui est responsable, il veut pas voir ce qui est arrivé à défaire, quoi.
Tout à fait, c'est lui qui a été l'entremetteur, en fait.
Ouais.
Mais c'était aussi le précepteur de Nefer. Et en tant que précepteur, il avait bien évidemment créé une relation très forte avec Nefer lorsqu'elle était enfant. C'est quelque chose qu'on voit encore une fois dans les annexes à la fin du livre. On a une illustration où on retrouve ce précepteur avec Nefer qui semble avoir 5-6 ans. Et il lui laisse... là, on met en scène une lettre qu'il lui aurait laissée comme une espèce d'excuse impossible à dire à la jeune femme qu'elle est devenue. Et là, effectivement, ce refus de voir la réalité, c'est vraiment la psychologie du personnage. C'est pas tant le fait de dire « Non, je ne veux pas voir ça », c'est le fait de dire « Je ne peux pas le voir ». Je ne peux pas... le supporter, en fait. Et
donc,
bon, voilà.
Voilà,
on crée beaucoup d'empathie, en fait, sur ces pages-là, entre tous les personnages qui sont présentés. Nefer est la victime. Alors, bien sûr, l'empathie par rapport à elle est assez évidente, mais le roi aussi. On se rend compte de sa faiblesse, on se rend compte qu'il est engoncé, finalement, dans son statut, dans le protocole qui va avec. Et puis on voit aussi donc le chaman qui lui là il est déjà perdu en fait.
Donc on va passer maintenant à la page. Alors un petit truc technique, un petit jeu qu'on va vous proposer.
Ah oui.
on s'est amusé à ça. Oui. On va vous montrer deux fois la même planche. Alors
oui.
Tu peux montrer.
Alors
voilà, voilà une version de cette planche.
Voilà. Alors
on va vous proposer
planche...
un jeu d'erreur.
Cette planche, il est arrivé quelque chose d'assez marrant et de très, très agréable pour moi. Ça s'est passé souvent pendant la réalisation de l'album. C'est l'intervention de mon directeur de collection, Thierry Jour, et qui a un regard acéré sur les éléments graphiques qui doivent faire du sens et de temps en temps, ça ne marche pas bien.
Donc, on va vous demander de bien regarder la planche case par case, essayer de la mémoriser et de voir quel changement il y a eu dans la version suivante.
Est-ce que vous avez eu quelque chose?
Est-ce que les gens remarquent une... Hein?
Oui.
Alors, ça se passe où?
La dernière case, oui.
La dernière case, ouais. En bas à droite, ouais. Donc, ouais. Donc, voilà.
Alors, on peut revenir sur la précédente.
On va revenir sur la précédente.
Ces éléments-là qui traversent cette dernière case, telle qu'elle, c'est assez équivoque. On se demande un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que ces espèces de lianes avec des pierres au bout? On se demande un peu comment ça arrive là. Et en fait, oui, c'est vrai qu'il manque une dynamique, il manque réellement le sens du mouvement et que l'on comprenne qu'il s'agit de pierres qui sont lancées. De liens qui sont lancés autour de Septentrion pour l'arrêter, pour le ligoter. Il y avait quelque chose qui fonctionnait absolument pas ici. Bien sûr, on n'a pas le sens du mouvement, mais on n'avait pas non plus le sens de ramener le regard vers la fin de cette page qui va nous inciter à la tourner pour aller voir ce qui se passe derrière. Ça ne marchait pas. Et souvent, quand on est dans la réalisation des images, quelque chose qui semble à peu près bien fonctionner, par exemple en noir et blanc, Eh bien, une fois que la couleur est là, on rend les choses statiques. La couleur a tendance à figer beaucoup l'image. Et là, Thierry Jour m'a dit, oh, ça ne marche pas, cette image, vraiment. Est-ce que ce serait pas mal, par exemple, si on avait le même plan, mais en plongée, qui nous permette de voir du dessus ces espèces de lianes et qu'on se rende compte que ça va par-dessus Septentrion. Et puis moi, ce plan-là, du coup, me gênait un peu parce que ce qui était important, c'était la réaction de Néfer. Et de le faire en plongée, la pose était plus possible. On ne voyait plus son visage, bref. Voilà. Du coup, j'ai pris en compte quand même sa remarque. Et puis, je me suis débrouillé, en fait, pour redonner une dynamique à ces lianes et qu'on comprenne réellement ce qui se passe. Quoi. Voilà.
Voilà. Bon, on va approcher de la conclusion. Juste, on va aller voir les pages vers les pages suivantes. C'est vers 90 qu'on a vu. C'est au moment où Néfer est dans...
Alors, Néfer est rentré dans l'esprit quasiment de Septentrion. Mais à proprement parler, elle est dans Septentrion. Voilà. C'est-à-dire que ces personnages d'argile sont comme des maisons. Hein. On peut réussir à entrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est comme une grotte qui contient justement ce savoir dont je parlais au début. Et ce savoir, eh bien, il est là, comme des peintures rupestres représentées sur les parois intérieures de Septentrion. Voilà, et ça raconte toute l'histoire de la civilisation de Néfer.
Et comme le thème de l'album, c'est quand même comment ils vont transmettre ça, on va vous laisser sur un cliffhanger. On va vous demander de lire l'album pour comprendre comment il va être transmis et où il va être transmis et où il va se retrouver. Quoi.
Voilà.
Avec une utilisation. Voilà, je vous laisse découvrir. Voilà.
Bon. Là, c'est la magie et c'est aussi la poésie qui opère parce qu'il fallait trouver un bon moyen de représenter de façon graphique le fait de transmettre un héritage qui est millénaire et comment est-ce que réellement ce serait possible. Eh bien, en fait, ce n'est pas possible. Si on y réfléchit, on ne peut pas transmettre à quelqu'un comme ça toute l'histoire d'une civilisation en un coup. Mais là, on trouve un effet graphique, un effet esthétique qui tient aussi de la magie et qui permet réellement de dire que Néfer devient la dépositaire de la mémoire de son peuple. Je vous laisserai le découvrir par vous-même.
Voilà. On va garder une minute ou deux si on peut pour s'il y a des questions.
Oui.
Attends.
On a pas de micro pour elle.
Alors moi j'avais une question par rapport à Entre les ombres.
Oui.
Vous parliez hier pendant la conférence sur le temps et la mémoire de l'effet de montage qui je trouve est très très fort dans cet ouvrage-là.
Oui.
Parce que du coup justement l'histoire elle se met en place de façon extrêmement percutante d'une image à l'autre.
Oui.
Et les formes des cases qui changent de l'une à l'autre apportent une grande force à ça. Et donc j'aurais aimé savoir si ça s'est fait, le fait de choisir ces cases toutes différentes, si ça s'est fait naturellement au cours de réalisation ou si c'était volontaire et si c'est une contrainte que vous êtes imposée dès le départ.
Alors je ne suis pas normand, mais je pourrais avoir une réponse de normand en fait par rapport à ça. C'est-à-dire que... Le langage, la grammaire de bande dessinée qu'il y a dans Entre les ombres, c'est en partie quelque chose d'inné pour moi, notamment tout ce qui était de la mise en scène des souvenirs et du choc des souvenirs avec la réalité. C'est quelque chose que j'ai eu dès l'origine, ça a même été moteur, en fait, pour créer la narration de cet album et une fois mis en place le process, eh bien plus ça a été et plus j'y ai réfléchi et effectivement plus on a eu cet effet de contraste, cet effet de saisissement quasiment entre la réalité et la réalité solitaire de ce personnage et ses souvenirs tellement vivaces, tellement plein de gens, tellement plein de sentiments et de vie. La juxtaposition des différentes séquences permettait d'avoir le sentiment d'une continuité, c'est-à-dire que le personnage passe Je prends un exemple qui n'est pas concret, mais le personnage passe dans une rue. Il voit, par exemple, des crânes au sol qui lui évoquent un souvenir. Et le souvenir, ce sont les gens vivants qui sont maintenant entassés là, tous ces crânes qui sont entassés. Et ce souvenir est d'autant plus marquant que c'est lui-même qui a pris ces crânes et qui les a entassés tout le long de la rue. Voilà, ça c'est un exemple vraiment très marquant, très prégnant pour dire la mémoire de ce personnage lui permet aussi d'avancer. Et la capacité de résilience qu'il a, pour moi, en fait un super-héros moderne. C'est-à-dire qu'il y en a, ils sont très forts, on leur tire dessus, ça leur fait rien. Mais lui, du point de vue psychique, il a une capacité que, à mon avis, personne ne pourrait avoir sur Terre, sauf peut-être le dernier homme vivant sur Terre. Voilà.
Bon, ça va être la conclusion, hein, parce qu'on va laisser la place au successeur.
Oui, oui, oui.
Merci de nous avoir écoutés.
Merci à vous.
Merci beaucoup.